Alors en fait, on va témoigner à deux voix, mais alternativement. On ne parlera pas ensemble. Avec Cathy. Donc bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Ce matin, je vais vous raconter un petit peu ce qu'on appelle mon témoignage personnel. Je garderai l'ordi sous les yeux parce que il y a tellement de choses qu'on peut raconter que j'ai un peu condensé et je ne veux pas sortir trop de ce que j'ai prévu de vous dire. En fait, il y a 18 ans que personnellement, j'ai fait l'expérience de Dieu à l'âge de 18 ans. Depuis, quand vous me regardez, vous savez que ça fait quelques dizaines d'années que ça s'est passé et que donc mon témoignage ne pourrait être qu'un survol de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je dis que j'ai fait l'expérience de Dieu à 18 ans, mais ça ne veut pas dire que je savais rien de lui avant ça. Mais c'est à 18 ans qu'il a vraiment changé ma vie. Je suis né dans le nord-est de la France, dans la magnifique ville de Reims. Petite page d'histoire, ville du Champagne, ville des sacres des rois de France, notamment de Charles VII, que Jeanne d'Arc a amené jusqu'à Reims pour être couronnée. Je crois pouvoir dire que j'ai eu une enfance heureuse, dans une famille catholique peu pratiquante. Ma mère était croyante, une croyante sincère, mais n'allait à la messe que pour les baptêmes, les mariages et les enterrements. Le souvenir que j'ai de la foi de mon père, de cette époque-là, c'est qu'il était surtout anticlérical. Il ne parlait pas du tout en bon terme des curés, comme il disait. Donc même si je suis passé par toutes les étapes du catholicisme, baptême, communion, profession de foi, confirmation, ma foi était très incertaine. Et oui, on peut grandir dans une religion, quelle qu'elle soit, quel que soit son nom, et pas connaître Dieu vraiment. Ma jeunesse, en fait, a surtout été occupée par l'école, les week-ends à la campagne chez mon grand-père, et surtout le sport. J'ai en effet été nageur de compétition d'assez haut niveau, puisque ce sport m'a amené jusqu'au championnat de France et j'ai pu visiter plusieurs pays d'Europe lors de compétitions, d'Europe du Nord notamment. Donc trois mots résument en fait parfaitement ma jeunesse, une enfance bien occupée, études, nature et sport. C'est magnifique, n'est-ce pas ? On ne peut rien rêver de mieux. Et famille, j'aurais dû rajouter famille aussi. Sauf qu'à l'adolescence, je me suis rendu compte que j'avais comme un vide intérieur et que les questions existentielles ne trouvaient pas de réponse. Alors j'ai commencé ma quête de Dieu. Enfin, je dis ma quête de Dieu aujourd'hui, mais à l'époque, je ne savais pas vraiment ce que je cherchais. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à l'intérieur, c'est tout. Je pense que si on m'avait posé la question, j'aurais répondu « je cherche le vrai, je cherche la vie ». Les grandes questions de l'adolescence que tout le monde se pose, et puis auxquelles on ne répond pas toujours d'ailleurs. On ne trouve pas de réponse. Et ça peut être à l'âge adulte qu'on trouve les réponses à ces questions finalement. Alors, ma recherche s'est orientée dans deux directions, la science et les spiritualités. J'ai eu la chance d'intégrer un lycée à Reims qui organisait un bac scientifique de grande qualité, qui n'existe plus aujourd'hui avec toutes les réformes. C'était un cursus qui proposait des enseignements assez poussés en physique, y compris en physique quantique, en chimie, en biochimie, en microbiologie. C'était vraiment la science pure et approfondie de l'époque. Et avec des travaux pratiques qui me passionnaient, surtout en microbiologie, tous ces petits microbes sous le microscope, c'était ma passion. C'est dans cette classe, en première, qu'une amie m'a introduite dans ce qu'on appelle les sciences occultes. Et donc, parallèlement à une science bien cartésienne et pointue, j'ai commencé à tirer les cartes avec des jeux de tarot, à faire des thèmes astro, à m'intéresser à la méditation transcendantale, et j'ai commencé à la pratiquer d'ailleurs, tout en étudiant aussi la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, c'est un des principaux livres de l'hindouisme. En fait, j'avais deux questions dans ma vie, vraiment. La première, c'était, est-ce qu'il y a un monde au-delà de ce qui est visible et palpable ? Puisqu'avec la science, c'était tout ce qui était visible, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Mais c'était palpable, visible, et si ce n'était pas visible à une vue, c'était visible avec un microscope ou autre. Et la seconde question, c'était, mais est-ce que Dieu existe ? Parce que s'il existe, il faut absolument pas que je passe à côté. C'est l'essentiel. Si je rate Dieu, on peut rien rater de pire dans sa vie. Alors à la première question, rien dans la science ne contredisait l'existence d'un monde spirituel. Il y avait même des lois physiques qui semblaient montrer qu'effectivement l'invisible existait. Hein. E égale mc2, je ne vous ferai pas un cours de physique et de chimie, mais voilà, les formules scientifiques montrent qu'effectivement, il y a quelque chose au-delà du visible. Quant à l'occultisme, lui, il me démontrait clairement que oui, il y a un monde au-delà du palpable. Mais la deuxième question, celle sur l'existence de Dieu, elle restait encore un mystère. C'est à cette époque-là que, par hasard, entre guillemets, au fond d'un vieux tiroir, que je n'ouvrais pas souvent, mais que j'ai ouvert ce jour-là, ma mère m'avait dit « range ta chambre ». J'ai commencé à trouver, j'ai trouvé au fond d'un tiroir donc un évangile, un vieil évangile de mon enfance. Alors j'ai commencé à le lire. Je me suis dit, bon, je lis l'hindouisme, pourquoi pas ne relire l'évangile, ou plutôt le lire, parce que tout catholique que j'étais, je ne connaissais pas l'évangile. Alors j'ai commencé à le lire. Et j'ai vite été fasciné par ce Jésus que je ne connaissais pas personnellement, mais qui en fait répondait à toutes mes questions, et avec une profondeur incroyable. Et surtout, ce Jésus était beaucoup plus fort que moi dans le domaine du surnaturel, avec tous les miracles qu'il faisait. C'est aussi à ce moment-là que, par hasard, de nouveau, j'ai croisé la route de gens un petit peu bizarres, qui sortaient chaque semaine dans les rues de Reims, avec des guitares, des bannières et tout ça, et qui chantaient et proclamaient l'évangile. Alors il me faisait un peu peur, c'était dans les années, fin des années 70, début des années 80, c'était une période où il y avait pas mal de sectes, etc., on parlait de scandales, il me faisait à la fois peur, et en même temps, j'étais vraiment très touché par les textes des flyers qu'ils distribuaient dans les rues. Alors un jour, c'était la semaine de mes 18 ans, j'ai décidé d'aller à une de leurs rencontres, un soir. C'était une soirée d'études de la Bible et de prière. Et là, ça a été le choc. Quelle joie, quelle paix, quel amour au milieu d'eux. Quelle profondeur et quelle vérité dans leurs paroles et dans leurs prières spontanées. Pour moi, c'était une évidence. Eux, ils connaissaient en direct ce Jésus. C'était pas simplement de la théorie, c'était un vécu. Il était là au milieu d'eux, ils étaient à l'aise avec lui. Enfin, ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Tellement impressionné que 2 jours après, j'ai décidé d'y retourner pour vraiment en avoir le cœur net et poser toutes mes questions. Ce deuxième soir, donc 2 jours après, j'ai demandé à l'un de ceux qui me semblait être un des responsables de l'Église comment on fait pour obtenir ce qu'eux possédaient. Parce que moi, je voulais bien croire en Dieu, en Jésus, tout ce qu'on voulait, mais comment on fait pour avoir ça? Et alors, cette personne m'a expliqué la repentance, la grâce, la foi, la prière. Des choses qui résonnaient dans ma tête, mais pas trop encore dans mon cœur. Alors là, ni une ni deux, le soir même, parce que Ce responsable d'église, c'était Éric Jaffrin, pour ceux qui l'ont connu, il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on prie ensemble et que tu donnes ton cœur au Seigneur et que tu passes par ce chemin que je viens de t'expliquer pour rencontrer Dieu? Et là, j'ai dit, oh là là, non, 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 non. Enfin, je n'ai pas dit comme ça. J'étais un peu plus poli. Mais je me suis dit, non, surtout pas. Si c'est vrai, je n'ai pas besoin de le faire avec quelqu'un. Je veux le faire tout seul dans mon coin. Au moins, je saurais que ce n'est pas une secte et que voilà. Donc ni une ni deux, dès rentrée à la maison à 23h, en ce 5 octobre 1978, oui, c'est précis, 23h, 5 octobre 1978, je me suis mis à genoux au pied de mon lit à la maison, et je me suis mis à prier et à demander pardon à Dieu pour ce qui me semblait être des péchés. Puis j'ai attendu, j'ai fait ce qu'il m'a dit, donc j'ai attendu, puis il ne se passait rien. Alors je me suis dit, bon, je vais recommencer. J'ai recommencé avec des supplications, disant à Dieu combien, s'il existait, je voulais le connaître. et que je ne m'en sentais pas digne, mais que s'il le voulait, il pouvait me toucher, il pouvait me visiter, il pouvait me parler, il pouvait faire ce qu'il voulait finalement. Et progressivement, en étant toujours à genoux, là, j'ai commencé à me sentir hyper mal. Moi qui n'étais pas du tout un grand voyou ou pas du tout un anxieux, je me sentais mal, je me sentais sale. J'ai commencé à sentir des angoisses, chose que j'avais jamais expérimentée. Un peu comme si j'étais perdu, qu'il n'y avait aucun espoir pour moi. J'ai vraiment flippé sur le moment, parce que ce n'était pas du tout mon habitude. Et puis, je me suis dit, je m'approche de Dieu, j'essaie de m'approcher de Dieu, et puis ça va de mal en pis, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai vraiment eu une espèce de moment de panique à ce moment-là. Et puis, toujours à genoux, en une fraction de seconde, j'ai fait une expérience que je ne connaissais pas du tout, que j'ai refait par la suite dans ma vie chrétienne, mais j'ai eu ma première vision. Dans mon esprit, j'ai eu une vision. Et j'ai vu le buste de Jésus en croix, comme si je le voyais là devant moi, c'était assez impressionnant, comme s'il était vivant là. Et puis j'ai vu ses yeux se fermer, sa tête s'incliner, tomber sur son torse, en rendant l'âme. Et là, j'ai compris. J'ai compris que c'est pour moi personnellement que Jésus a été sacrifié sur la croix et que son sacrifice était pleinement suffisant pour que je sois libéré de la condamnation du péché, que je puisse toucher Dieu, accéder à Dieu. Chose encore plus étonnante, bon, j'ai été en larmes quand j'ai vu ça, parce que voir ça de nos yeux dans l'esprit, mais c'est assez impressionnant. Et donc, chose encore plus étonnante, en ce même instant, toutes les angoisses que je ressentis sont parties, que je ressentais sont parties, comme par miracle. Ça a été un flash. Tout est parti et une paix incroyable m'a envahi, que je ne connaissais pas. Je ne savais même pas que ça puisse exister. Je l'avais ressenti cette paix chez les autres, mais je n'avais jamais vécu personnellement cette paix incroyable qui m'a envahi. Et puis avec cette paix, un enthousiasme, une joie aussi inimaginable qui m'ont rempli. Dieu, en fait, est devenu pour moi une évidence. À partir du lendemain de cette expérience, je disais à tout le monde autour de moi, avant, je croyais en Dieu, maintenant je sais qu'il existe, je le connais personnellement. Et aujourd'hui, donc quelques dizaines d'années après, cette paix, cette joie, cet enthousiasme qui sont surnaturels, en fait, vis-à-vis de Dieu, de la vérité de l'Évangile sont encore présents. Ce jour-là, en fait, j'ai vraiment abandonné ma vie à Dieu et je suis entré dans une magnifique aventure qui dure toujours. Jalonnée certes d'épreuves, mais aussi de beaucoup de miracles et d'interventions divines. J'ai abandonné les sciences occultes, j'ai brûlé tous les livres que désormais je savais diaboliques et j'ai appris quelques jours plus tard que ces chrétiens que j'avais visités étaient des chrétiens en fait évangéliques, une branche très vivante du protestantisme. Après ma conversion à Dieu, qui a été soudaine et radicale, une seule priorité a gouverné ma vie de jeune adulte, servir Dieu et faire sa volonté. J'étais pas passé à côté de l'essentiel, donc j'allais être dans l'essentiel et servir l'essentiel. Très vite, l'appel de Dieu a été très fort sur mon cœur, sur ma vie. Mais comme c'était prévu, je suis entré en fac de médecine. C'était 3 jours après ma conversion, en fait. Une année de concours de première année de médecine que vous savez est bien difficile, mais que j'ai pu réussir grâce notamment au bac que j'avais fait avant, qui a toutes ces matières scientifiques très poussées que j'avais eues, donc qui pour la plupart n'étaient que des révisions pour moi. Faut dire que parallèlement, cette année, heureusement que j'avais fait ce bac-là, parce que et pour avoir mon concours du premier coup, j'allais dire en une année, parce que mon année a été très occupée par les études de médecine, mais surtout par la découverte de la Bible. Si je devais calculer, je dirais que j'étais 2 tiers dans la médecine, 1 tiers dans la Bible, quoi. Mon changement radical a été vraiment difficile à vivre pour ma famille. Mes parents ne me reconnaissaient pas et ne comprenaient pas ce qui se passait. Et ma sœur a même essayé de m'influencer pour me faire sortir de ce qu'elle pensait à l'époque être une secte. Mais le plus dur restait à venir pour eux. En effet, en fin de deuxième année de médecine, l'appel de Dieu devenait de plus en plus pressant sur mon cœur et une phrase m'habitait tous les jours quand je partais à la fac. À quoi sert de soigner les corps alors que ce sont les hommes, les âmes qui meurent loin de Dieu ? Vraiment, c'était tellement fort sur mon cœur. Et de façon radicale, donc je décidais, avant la fin de mes partiels, des partiels de fin d'année, de quitter mes études de médecine, de quitter ma famille, de partir de la maison et de rejoindre ceux qui, à l'époque, à l'église, vivaient en communauté. C'était une communauté de vie qui partageait tout, qui mettait tout en commun. Pour me former et pour servir Dieu. Donc j'ai laissé ma mère en pleurs, mon père en furie. La dernière chose qu'il m'a dit, vous imaginez, fils qui va devenir médecin et puis qui s'en va en deuxième année pour aller avec des fadas qui parlent de Dieu toute la journée. La dernière chose qu'il m'a dite ce jour-là, quand je lui ai annoncé que je partais de la maison, c'est « si tu pars, tu n'es plus mon fils, tu es pour moi un clochard ». Heureusement, tout s'est raccommodé 3-4 ans après, quand nous nous sommes mariés et que nous avons eu notre premier petit, qui est comme ça maintenant, hein, que beaucoup connaissent. Mon père, je crois, a réalisé là que finalement, on était quand même des gens à peu près normaux. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, mes deux parents et ma sœur se sont aussi rapprochés de la foi en Christ. Je m'arrête là, je laisse la place à Cathy. Et puis je reviens tout à l'heure.
C'est difficile de résumer une vie en quelques minutes, mais je vais essayer. Pour ma part, et vous verrez que mon histoire est totalement différente de celle de Joël, pour ma part, si ce n'est notre lieu de naissance, je suis née dans la Marne, donc pas très loin de Reims, il y a plus de 60 ans, dans une famille chrétienne, évangélique. Et pendant toute ma petite enfance, où nous étions à Reims, où mon père était pasteur, nous vivions en communauté, avec des parents très pris, très engagés, beaucoup d'accueil de personnes de la rue, et c'était mes grands-parents qui s'occupaient de moi. Et j'ai grandi, comme les enfants que vous voyez au fond, dans une église, avec toutes les activités et cette communauté de vie qui était comme une famille. À l'âge de 8 ans, mes parents se séparent. Et pour moi, c'est un vrai traumatisme. L'abandon, la douleur de ma grand-mère... Et ça a eu des répercussions pendant longtemps dans ma vie. Mais je dois dire que Dieu ne m'a jamais abandonnée. Il a placé des personnes autour de moi. À l'âge de 10 ans, à l'occasion de la venue de mes grands-parents, à l'époque nous habitions à Troyes, dans l'Aube, ma grand-mère m'encourage à me tourner vers Dieu pour qu'il intervienne dans notre famille, évidemment, et je demandais que mon père revienne. Mais Dieu a choisi de faire autrement. Et ça a été pour moi vraiment un marqueur dans mes souvenirs. C'est vraiment le début d'un processus qui s'est passé où Dieu a commencé à se révéler à moi. Et pendant des années d'adolescence, avec des hauts et des bas, j'ai continué à aller à l'église avec ma mère et ma sœur. Et suite à une discussion avec mon beau-frère, qui dirigeait un camp dont je faisais partie, j'ai vraiment décidé de m'engager pour Dieu. Il m'a vraiment attirée à lui à ce moment-là. Et j'ai réalisé son amour, sa grâce, comme une adolescente peut le réaliser. Pour moi, c'était malgré mon péché, il m'aimait. Et il a fait de moi son enfant. Et je me suis fait baptiser l'année d'après, à 16 ans. Et c'est à l'occasion d'un voyage à Reims, pour voir ma grand-mère, que je rencontre un jeune homme, puisque l'église dont Joël a parlé, c'était l'église où mon oncle était pasteur. Donc j'y allais aussi quand j'allais voir ma grand-mère à Reims. Et c'est à mon retour, cette année-là, que je rejoins l'Assemblée chrétienne de Nîmes, pour ceux qui connaissent, voilà. Et là, je commence une période très enthousiasmante. J'ai 17 ans, très engagée dans l'Église. Je commence à diriger la louange, il y a des études bibliques, l'évangélisation dans la rue. C'était vraiment un temps et surtout des amitiés qui commencent et qui sont toujours là aujourd'hui. Notre relation avec Joël continue à distance et jusqu'à notre mariage. Et l'année d'après, enfin juste après notre mariage, je pars pour Reims, où nous vivions en communauté. Là, nous avons eu notre premier enfant. J'étais maman à 19 ans et ça n'a pas été une période facile. Et nous revenons à Nîmes 2 ans après. Voilà. Et c'est là que je relaisse la parole à Joël.
Cathy dit que ça a été une période pas facile, non pas parce qu'elle était vraiment maman à 19 ans, mais parce qu'on vivait en communauté, que c'était pas simple. Vivre en communauté avec des célibataires, tout ça, ça allait, des gars. Après, vivre avec des couples, des enfants, devenait très compliqué. Donc, une fois arrivé à Nîmes, puisqu'on décide donc 2 ans après de descendre à Nîmes, j'ai trouvé un travail de vendeur, puisqu'à l'époque, pendant 2-3 ans, j'ai pas travaillé du tout. En fait, c'était la vie communautaire, l'évangélisation, on implantait des groupes autour de Reims, etc. Donc, c'était passionnant, c'était une formation super, mais bon, ça nourrit pas une famille. Donc, en venant à Nîmes, j'ai trouvé un travail de vendeur en matériaux. Et après 2 années, Dieu nous a conduits à ce que je reprenne mes études de médecine. J'avais alors 24 ans. C'était un défi de reprendre des études à 24 ans de médecine. Et les miracles et petits signes de Dieu se sont multipliés, vraiment. Pour que, enfin, en 1994, je puisse visser ma plaque dans le quartier de Castanet, à Nîmes, où j'exerce toujours la médecine générale. Reprendre en deuxième année, c'était vraiment mon désir. Quand j'ai eu l'idée de... Parce que bon, je travaillais à la Méridionale des Bois et Matériaux, c'était juste couvert, l'hiver je me gelais. C'était un peu difficile et Dieu m'a vraiment parlé. Il m'a dit, mais vas-y, reprends tes études. Donc je me suis dit, bon, allez, on va se lancer. Mais je ne voulais pas refaire la première année, concours, etc. On attendait notre deuxième qui est née juste là... en octobre, quand je reprenais normalement mes études. Donc, il fallait trouver des solutions, quoi. Et donc, je voulais absolument rentrer en deuxième année. Donc, je demande un rendez-vous avec le doyen de la fac qui accepte de me rencontrer. Donc, je lui raconte mon histoire, ma vie, ma première année d'études à Nîmes, la deuxième année que je ne valide pas à Reims. La deuxième année que je ne valide pas, et puis le fait que voilà, je suis pasteur stagiaire, enfin bon, voilà, je raconte ma vie comme ça au doyen, qui me regarde avec beaucoup d'intérêt, en tout cas il me semblait, et puis il me dit, franchement, votre histoire c'est passionnant, c'est vraiment intéressant, mais je peux pas vous prendre en première année, c'est pas possible, en deuxième année c'est pas possible, parce que les années de médecine, je ne sais pas si c'est toujours comme ça maintenant, mais c'était par cycle. Et il fallait valider un cycle pour pouvoir changer de ville. Et je n'avais pas validé le premier cycle, c'est-à-dire la deuxième année. Donc il me dit, alors là, je m'effondre intérieurement, bien sûr, en me disant, mais pourtant, il me semble que le Seigneur m'a parlé là-dessus et tout. Et puis il continue à me parler comme ça, en disant vraiment... c'est bien, mais je ne peux pas, etc. Puis il me regarde et puis il me dit, mais finalement, parce que c'est vous, à cause de votre histoire, je vous accepte en deuxième année. Donc c'était vraiment le miracle, là, vous voyez, le froid, le chaud, c'était... Et donc voilà, je suis reparti pour des études. Mais c'est pareil, ça ne nourrit pas une famille. Donc il fallait vraiment que je trouve un travail. Cathy était enceinte, donc elle allait accoucher de Julien quelques jours après. Impossible de travailler, donc fallait que je trouve un travail. Alors je me suis dit, voilà, je suis étudiant en médecine, j'étais pas encore rentré en fac, hein, mais je suis étudiant en médecine, qu'est-ce que je peux faire valoriser? Et donc je fais le tour des cliniques par téléphone pour voir si je peux trouver un travail quelconque. Rien. Donc le, ça en une journée. Le lendemain, je dis bon, ben, je vais prendre toutes les, les maisons de, d'activités sociales et autres. Donc je commence à passer des coups de fil. Et le premier coup de fil en fait que je passe, c'est à la communauté Coste. C'est la communauté Coste, pour ceux qui connaissent Nîmes, c'est une maison, un orphelinat sur le, l'annuaire. C'était marqué orphelinat, communauté Coste. Une maison, donc un orphelinat pour des cas sociaux qui est d'origine protestante. Voilà. Donc je téléphone et puis là j'ai un monsieur au téléphone qui me répond, qui me dit bah, écoutez, venez demain, ça m'intéresse. Surprise. Donc j'y vais le lendemain. Et le lendemain, je suis accueilli par ce monsieur, qui en fait est le directeur de la communauté Coste. Et puis donc je lui dis voilà, je suis étudiant en médecine, je rentre en fac, je cherche un travail. Il me dit bah, écoutez, c'est bizarre parce que vous voyez, j'ai deux secrétaires là, toujours avec moi. Et dit, hier, elles n'étaient pas là, exceptionnellement. C'est pour ça que j'ai répondu au téléphone. Sinon, je ne vous aurais pas parlé, je ne vous aurais pas invité à venir. Bon, je me dis, c'est intéressant. Et puis, il me dit, et puis c'est intéressant aussi parce qu'au moment où votre coup de fil, le téléphone a sonné pour que vous m'appeliez, je venais à l'instant de mettre dehors un de mes veilleurs de nuit. Parce qu'il profitait la nuit pour boire, etc. Il était alcoolique. Et donc, il y a une place. Je vous prends. Dès ce soir, vous commencez. Donc, vraiment, là, c'était de nouveau un miracle. Donc, j'ai travaillé comme veilleur de nuit pendant pas mal d'années. La veilleur de nuit, la nuit. Et bon, je dormais un petit peu quand même. Et puis, à la fac et à l'hôpital, la journée. Et les années se sont passées comme ça. Alors, la petite histoire aussi, ce qui est très, très beau, je trouve, et où vraiment on voit la main de Dieu qui agit dans plein de détails, c'est que ce directeur, je ne donnerai pas son nom, mais est devenu mon patient et que pendant des années, je l'ai soigné. Puis malheureusement, il a été atteint d'une grave maladie et donc je l'ai accompagné jusque dans la mort et il a accueilli le Seigneur vers la fin de sa vie. Et donc, c'était très joli de voir comment il m'a tendu la main et je lui ai tendu la main. Et alors, encore pour la petite histoire, c'est que cet homme, il était fils de missionnaire en Afrique, missionnaire protestant, plutôt dans le social. Mais lui n'avait jamais vécu, en fait, avec Christ. Et Dieu avait quand même sa main sur lui aussi pour l'amener avant qu'il parte au ciel de rencontrer le Seigneur. Donc, je trouve ça très, très joli. Tout en exerçant comme médecin, j'ai été pasteur. J'étais ce qu'on appelait bivocationnel, c'est-à-dire médecin et pasteur. J'avais les deux en même temps. Donc pendant 2 ans à l'Assemblée chrétienne d'Alès, qui avait vécu des problèmes et l'église de Nîmes nous avait envoyé à Alès pour remonter l'église, ce qu'on a pu faire en 2 ans. Et puis j'ai été pasteur ici, dans cette église ici à Marguerite, pendant 20 années. Voilà. Actuellement, je suis surtout engagé, le Seigneur m'a amené à être engagé dans l'interreligieux au niveau de l'œcuménisme chrétien et puis au niveau aussi de la communauté juive et des communautés musulmanes aussi. Je repasse la parole à Cathy.
Oui, donc ces années de médecine qui n'ont pas toujours été très simples, avec beaucoup de défis. Mais encore une fois, Dieu nous a fait grâce et Dieu a été fidèle. Fin 94, on trouve par hasard un mélanome dans mon œil, et c'est une lésion maligne. Et après m'être demandé combien de temps il me restait à vivre, Dieu a choisi de me guérir avec le traitement. Donc, merci Seigneur. Après 2 ans donc à l'église d'Alès, nous rejoignons l'église de Marguerite, comme Joël l'a dit, en 98, peu après la naissance de notre 4e enfant. Après quelques années au service de l'église, et toujours des défis dans notre vie, des jours, des joies, des peines, le mariage de nos enfants, la naissance de nos petits-enfants. Et il y a 6 ans, suite à une année très difficile, avec beaucoup d'épreuves de santé et dans notre famille, j'ai vécu une vraie restauration. grâce à la parole de Dieu, désolée. Tout va bien, mais c'est... Et petit à petit, Dieu m'a remise debout. Il m'a fait la grâce de redécouvrir sa parole. Comme jamais, je l'avais lue et découverte. Et de m'émerveiller de qui il est, de l'amour de Dieu et la compassion de Jésus. Comme une source en moi qu'on avait débouchée. Et pour terminer, je voudrais lire le psaume 116. Oui, j'aime le Seigneur, car il entend ma voix et mes supplications. Car il a incliné son oreille vers moi et je l'invoquerai tous les jours de ma vie. Les lacets de la mort m'avaient enveloppé. Les filets de l'abîme m'avaient déjà saisi. Je n'avais en partage que chagrin et angoisse. Alors, j'ai appelé le Seigneur par son nom. Ah, Seigneur, je te prie, viens délivrer mon âme. Le Seigneur nous fait grâce et notre Dieu est juste. Il est compatissant. Il défend les petits, car j'étais misérable. Le Seigneur m'a sauvée. Retourne à ton repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu l'as délivré, tu as délivré mon âme de la mort, tu as séché mes pleurs et tu as préservé mes pieds de toute chute. Je marcherai encore en présence de Dieu au pays des vivants. J'ai gardé confiance, c'est pourquoi j'ai parlé, quoique bien malheureux. Dans mon agitation, j'en venais à me dire « tout dans l'homme est trompeur ». Comment rendre compte au Seigneur de tout ce qu'il m'a donné? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom de l'Éternel, j'accomplirai les vœux que j'ai faits au Seigneur à la vue de son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Écoute, ô Éternel, je suis ton serviteur, je suis ton serviteur, le fils de ta servante, tu as brisé mes chaînes. Aussi, je veux t'offrir, Seigneur, le sacrifice de la reconnaissance. J'invoquerai ton nom. J'accomplirai les vœux que j'ai faits au Seigneur à la vue de son peuple dans les parvis du temple de l'Éternel, au cœur de ton enceinte, Jérusalem. Célébrez le Seigneur. » Et vraiment, ce psaume résume ma vie, je dirais. Et bien sûr que je ne sais comment rendre au Seigneur tout ce qu'il m'a donné, tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il a fait pour nous. Si ce n'est qu'aujourd'hui, je voudrais simplement vous dire que si ça fait écho dans votre cœur, eh bien n'attendez pas. On a des évangiles à vous donner, une partie de la parole de Dieu, de la Bible, mais c'est ça le but de témoigner de notre vie, c'est rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait et c'est vous interpeller pour ceux qui ne le connaissent pas. Et pour ceux qui, comme moi, ont vécu une vie avec Dieu, avec des hauts et des bas, pour vous encourager, ou des fois on se sent un peu loin, de vous réengager pour le Seigneur, de vous reconsacrer à Dieu. Voilà.